C'est l'artichaut,
le moment où on parle d'art, l'émission que vous retrouvez sur le 101.7.
Pourquoi c'est connu ?
Artichaut, tous les vendredis soirs, au micro avec Carotte. Salut à toi.
Hello, hello, c'est Carotte. Bonjour, bonjour à tous. Je suis super excitée aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, puis parce que c'est ton anniversaire aussi aujourd'hui. Bon anniversaire, Malo. Malo.
Merci beaucoup, c'est gentil. Je suis très heureuse de le passer avec toi aujourd'hui, c'est trop chouette.
Bon, par contre, on va parler d'un peintre un peu tristouille, un peu tristouné aujourd'hui.
Ouais, mais avec un parcours assez impressionnant, c'est tout un personnage, donc c'est plutôt assez cool.
Ah oui, c'est Amadeo Modigliani, le fabuleux.
Vas-y, alors dis-nous-en un petit peu plus, pourquoi déjà tu as eu envie de parler de ce peintre-là sur les ondes dans notre émission
Bah là, en fait, il y a eu une très belle expo à l'Orangerie de son travail jusqu'au 15 janvier, donc qui s'appelle « Un peintre et son marchand », Amadeo Modigliani et Paul Guillaume, et qui est une très belle rétrospective. On a rarement l'occasion de voir le travail d'Amadeo Modigliani, dont il nous reste peu de choses et qui sont éparpillées un peu partout dans le monde, malheureusement. Et puis Amadeo, en plus d'être beau comme Marcello Mastroianni, il est le plus bel exemple de peintre maudit, tuberculeux, alcoolique, pauvre et génial. Génial, absolument génialissime. Voilà.
C'est quelle époque, du coup
Alors, Amadeo Modigliani est né le 12 juillet 1884 à Livourne et il va mourir le 24 janvier 1920 à Paris. Du coup, ça lui fait une très courte vie, mais qui va être très dense parce que grâce à l'amour de sa mère, pour lequel il est son petit rayon de soleil et c'est son dédo d'amour, elle va très vite comprendre qu'il est très doué pour la peinture, qu'il a une grande sensibilité. En plus d'avoir une santé très fragile, donc tout petit nourrisson, en fait, il naît tout moche et tout fébrile. Et du coup, elle sait qu'elle ne va pas pouvoir en faire un grand guerrier. Et comme elle a envie aussi d'émancipation, elle va un peu se servir de lui pour s'émanciper, elle, de son milieu bourgeois. Et l'histoire raconte que le jour de sa naissance, les huissiers sont arrivés à sa maison pour récupérer toutes les richesses de sa famille parce que c'était la première grosse banqueroute financière de son papa. Donc, né dans une relative bourgeoisie aisée, il va rapidement avoir à gérer la précarité de sa famille et ensuite la sienne avec une grande maestria et un côté chevaleresque et truculent qui est enfin un personnage de Montmartre, puis ensuite de Montparnasse, vraiment qui a marqué les peintres et le mouvement de la peinture.
Au début des années 20, les Français veulent oublier la guerre. Pendant les années folles, toute une société cherche à croquer la vie sans se soucier du lendemain. Le tout Paris va alors s'étourdir dans les cafés de Montparnasse à la suite des soldats américains. Ce quartier devient le cœur battant de la vie artistique du Paris des années folles. La culture noire américaine prend possession des nuits parisiennes. Le jazz, le charleston, le chimie remplissent les cabarets et les bistrots. Les dancings sont peuplés de soldats américains, d'anglais, mais aussi d'une population bigarrée, avide de nouveautés. La danseuse Joséphine Baker est lectrice des soirées parisiennes. Elle chante et danse dénudée et plumée devant un public déchaîné. Les artistes se retrouvent au Carrefour Vavin, dans les cafés comme le Dôme, la Closerie des Lilas, la Rotonde, le Select, la Coupole ou le Bœuf sur le Toit. Les patrons de ces bistrots acceptent que les artistes occupent une table toute la soirée pour un prix dérisoire. S'ils ne peuvent pas payer, le propriétaire de la Rotonde demande un croquis. Couverts de collections d'art, les murs des cafés deviennent alors des galeries improvisées. Ces nuits des années folles, qui attirent des gens du monde entier, deviennent une légende. Le peintre Chagall s'exclame: le soleil de l'art brille seulement sur Paris. Pour l'écrivain Henri Miller, le carrefour Montparnasse-Vavin-Raspail est le nombril du monde. Des écrivains célèbres, comme Francis Scott Fitzgerald, viennent attiser ces soirées sulfureuses. Pendant 10 ans, le quartier va vivre des nuits enchantées de créativité, d'ivresse et de danse. Des nuits bohèmes où artistes et inconnus tentent d'oublier le monde.
Personnellement, j'adore J'adore l'artichaut, cette émission qui parle d'art, d'art, d'art.
Et alors, qu'est-ce qui peint Amadeo? Est-ce que ça va plus être des portraits, des paysages, des moments, des époques? Est-ce que c'est engagé? Qu'est-ce
Alors,
qui...
ce qui va se passer pour lui, c'est que donc très rapidement, il va dire que l'école, ça lui va pas. Et sa mère va le placer dans des cours de dessin et des ateliers dès ses 14 ans. Donc, dès ses 14-16 ans, il commence déjà à avoir une vraie pratique picturale et à travailler avec des maîtres italiens. Et en plus, il va avoir la chance d'aller faire des académies, des beaux-arts ici et là, en Italie. Du coup, il est gorgé de la culture antique et des grands peintres et des grands chefs-d'œuvre italiens. Et il va toujours garder cet amour du classique et de sa culture. Et il va être un trait d'union entre justement le classique, l'art classique et l'art moderne, dans lequel il va
Exceller.
émerger, il va exceller. Oui et non. Ce qu'il y a, c'est que on ne parle pas vraiment d'excellence en matière de peinture. On parle plutôt de surprise, de recherche, de choses
Innovante.
innovantes, voilà, et de choses qui émotionnellement touchent, marquent.
J'ai des amours, le diwa, la radio. J'ai des amours, le diwa, oui, c'est toi.
Et on arrive aussi dans une période où on a eu les expositions universelles qui ont mis en avant les arts africains, les arts océaniens, les arts asiatiques. Et du coup, ils participent aussi de cette recherche en s'inspirant du passé et de la beauté, de la plastique totémique et des masques anciens africains ou khmers. Et il est le trait d'union parfait pour faire le lien entre ça, la matière classique, antique, gréco-romaine, et la matière vivante, tribale,
De la modernité.
Des
D'un
tribus
autre,
de l'autre monde.
Tout à
Donc,
fait.
c'est riche d'universalité, tout ça. C'est ça qui est très beau. Alors, c'est essentiellement pour répondre à ta question. Des portraits dont il est question. Du coup, ça, c'est génial parce que comme les gens qui font les portraits font souvent leurs amis ou leurs maîtresses ou leurs tendres ou leurs familles, on en apprend vraiment beaucoup plus sur leur environnement affectif. Donc là, pour ça, Amadeo, il est le maître de ça. Et il a fait quelques paysages. Et quand on aura un peu mis de la musique, je vous parlerai un peu plus de justement cette incongruité des paysages dans l'œuvre de Modigliani.
Et avant la petite touche musicale, le petit moment musique, est-ce que comme ça tu pourrais citer le nom de certaines de ces œuvres qui pour toi sont très, enfin qui t'ont touché peut-être plus que d'autres et que les auditeurs puissent pouvoir regarder un petit peu
Alors, moi, j'aime particulièrement tous les portraits qu'il a fait de ses amis masculins. Parce que finalement, les portraits féminins qui ont une grande charge émotionnelle, je les trouve moins contrastés et moins puissants. Justement, il y a ce côté rêverie, les yeux tout bleus. Je trouve qu'il y a un peu plus d'originalité dans les tableaux qu'il a fait de ses amis, dont Paul Guillaume, mais il y a aussi un super portrait de Diego Rivera, tout rond. Il y a Cocteau, il y a Radiguet. Donc, bon, il y en a plein, voilà. Et du coup, on voit ses copains et on a facilité, tu vois, à imaginer l'époque, les vêtements, le cadre et toutes ces choses-là. Et puis, il a peint aussi, bien sûr, ses maîtresses et ses chéries. Et pour ça, comme il était très séducteur, très charmeur, vraiment, il faut voir un Marcello Mastroianni, en plus, dans la pauvreté, mais avec des habits toujours propres, toujours rasés de près, la petite mèche, une écharpe, tu sais, un petit foulard rouge, un chapeau à la Aristide Bruant noir sur la tête, une espèce de veste élimée. Enfin, voilà, le merveilleux, le fabuleux. Et puis, un petit mot pour tout le monde, super à l'aise avec les ivrognes et les mendiants. Enfin, il a l'ivresse truculente et il paraît qu'il raconte de la poésie. Donc, il avait ses habitudes dans des bars comme le Dôme ou la Rotonde et il échangeait ses dessins contre des petits coups à boire ou bon, des petits sous pour se payer des petits coups à boire. Et il n'a pas eu de chance parce que, bon, en plus de sa tuberculose et de ses problèmes généraux de mauvaise santé, l'alcool a pas aidé. C'est pour ça qu'il est mort aussi prématurément, malheureusement pour nous. Mais il laisse derrière lui des souvenirs pas possibles. Donc, il allait à une petite cantine qui s'appelait Chez Rosalie. C'était une Italienne qui faisait une super bonne pâte à manger avec générosité. Et il lui laissait des œuvres d'art. Et elle, elle l'adorait. Et il y a aussi l'idée marrante, la petite anecdote qu'il se faisait souvent arrêter par la gendarmerie, enfin les policiers. Donc il se retrouvait au poste de police et à la préfecture de l'arrondissement où il était. L'inspecteur avait plein de tableaux de Soutine, de lui en l'occurrence, de Gauguin, les peintres qui allaient tous en garde à vue ou qui finissaient au trou en cellule de dégrisement, ils échangeaient contre un tableau et tout. Et du coup, il y avait des inspecteurs de police dans des commissariats qui avaient des petites collections grâce aux ivrogneries des génies artistes de Montparnasse. Du coup, bon, j'ai trouvé ça excellent.
Carrément. C'est sympa. Avec quelle musique on laisse nos auditeurs là ?
Bah, j'avais pensé Dalida. Dalida. Gigi Lamoroso. On va pas leur mettre extrait. 7 minutes. Oui, ouais, oui, juste l'intro, extrait. L'intro.
Et bien, on se retrouve juste après pour revenir un petit peu sur l'enfance d'Amadeo.
Je vais vous raconter avant de vous quitter. L'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je dansais en frappant des tambourins, mais tous ceux qui venaient c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait: arriva Gigi Lamoroso, croqueur d'amour et de velours comme une caresse. Gigi Lamoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait: Zaza, luna, caprese, osso de mio.
Dalida, Dalida, j'espère que vous avez apprécié ce moment sur le 101.7 dans l'émission L'Artichaut. On est de retour juste après cette pause musicale pour continuer de parler d'Amadeo. Et notamment, voilà, on aime bien en revenir, vous l'avez compris, sur l'enfance des artistes, parce que tout génie descend de géniteurs et souvent l'histoire de l'enfance éclaire aussi un petit peu...
Bah oui, l'enfance de l'art, évidemment. Donc ce qui est rigolo chez Modigliani, c'est qu'il vient, il est issu d'une famille bourgeoise, mais qui a déjà pas mal voyagé, parce que ils ont dû, à cause des rois catholiques, enfin bon, il y a eu des immigrations dans leur famille. Donc la famille du côté du père, Flamirio, ils sont plutôt du côté de la Sardaigne, ils ont des forêts, et c'est des propriétaires forestiers. Et du côté de la mère, ils ont dû, à un moment donné, émigrer vers Tunis. Et donc, du coup, il y a un côté de ses parents qui avaient carrément monté une école talmudique du côté de Tunis. Du coup, la mère, du côté de ses géniteurs, elle a un peu vraiment des petits voyageurs, bon, des exodes et des problèmes, évidemment. Mais du coup, voilà, ça donne le goût du voyage, de l'aventure, et ça rend les photos de famille un peu plus marioles. Donc lui, il est le dernier de quatre enfants. D'ailleurs, il y a une petite sœur qui va mourir, dont il porte le prénom, comme ça arrive souvent. Il naît donc le jour où l'huissier vient récupérer pour se rembourser des meubles de chez lui, parce que le père, qui a un financier, mais qui a fait un peu banqueroute, qui ne sait pas très bien gérer l'argent, il va se retrouver plusieurs fois dans des situations de pauvreté à devoir se refaire. Donc c'est le jour où l'huissier arrive, l'enfant est de santé fragile, mais il a une intelligence sensible et son inappétence pour l'école vont vite persuader la mère qu'il faut l'accompagner dans la vocation artistique. Et elle, ça va super la brancher, la mère, Eugénie, née garçon, parce qu'elle va y voir là une possibilité pour elle aussi de voyager en emmenant son fils à gauche et à droite. Et d'ailleurs, elle va monter une petite école et elle va enseigner très rapidement à Amadeo à lire et à écrire. C'est pour ça qu'en fait, il en avance sur tout. Et lui, il disait, je veux une vie brève, mais super intense. Ben, il va l'avoir. Elle va commencer tôt, mais du coup, vraiment, il va l'avoir.
Je trouve que c'est un très bel objectif. Je préfère avoir une vie courte et très intense qu'une vie longue où je ne profite pas beaucoup.
Exactement. Bon, enfin, du coup, grâce à papa et à maman, merci, il acquiert rapidement une solide culture classique dans un milieu qui est féru d'art, qui est assez sans tabou et plutôt ouvert. Et du coup, bon, il y a une grande différence d'âge entre son père et sa mère. Il y a 15 ans d'écart. Et du coup, au départ, la mère et les enfants, ils habitent dans la famille, dans la belle famille. Et là, c'est une famille ultra conservatrice et patriarcale. Dans elle s'en sent super mal à l'aise. Et du coup, grâce à ça, ils vont pouvoir déménager et prendre un peu tous leur indépendance. Donc, il voit aussi, il a une mère indépendante qui est quand même un petit électron libre dans un milieu où, bon, ben, ça se fait pas trop de prendre son autonomie et même d'avoir un travail. Et en plus, le génie, sa maman, elle va aussi se lancer dans la traduction de poésie et les critiques littéraires. Là où c'est intéressant, c'est qu'elle va écrire une biographie de son fils qui date de 1924 et qui nous éclairera un peu plus justement sur les conditions d'éducation et le milieu et la façon dont était Amadeo, comment elle voyait son petit rayon de soleil.
Mais est-ce du que coup, ce livre, il a un titre spécial ou on peut le trouver en demandant la biographie d'Amadeo?
Oui, voilà, par sa mère. Et il va y en avoir une deuxième en 1958 par sa fille, Jeanne, qui va, elle aussi, en raconter un peu plus.
Waouh ! Et des interprétations cinématographiques. Donc, en fait, il est quand même sur tous les
supports.
Ça, en fait.
Ben, là, du coup, on a vu qu'il y avait eu le film Modigliani avec Andy Garcia et, comment elle s'appelle, Elsa Zilberstein. J'ai regardé juste un bout, je suis désolée, mais ça m'a semblé trop romantico, pleurnichard, et ça ne m'a pas vraiment plu. Mais par contre, j'ai entendu dire que Johnny Depp...
Tout à
était parti pour interpréter Amadeo Modigliani, mais seulement genre 1916-1919, enfin une toute petite partie.
Partie de sa vie.
Enfin,
ouais.
Une toute petite partie, elle n'a pas été longue, mais disons 2 ans de sa vie.
Oui, c'est René à l'appareil, René Magritte, mais c'est proprement scandaleux, dois-je vous dire. Hein, l'Artichaut est une très belle émission qui parle d'art. Cependant, n'appelez plus ça un urinoir, c'est fontaine. Merci, c'était René.
Donc, en 1906, ben évidemment, Amadeo part pour Paris pour rejoindre tous ses autres amis exilés, comme les Picasso, les Chagall, les Fujita, les Soutine et tout ça, à Montmartre. Et puis, comme à Montmartre, où c'est la cambrousse, ben en fait, il va commencer à y avoir de la rénovation et des nouveaux quartiers pour Paris. Donc, du coup, tous les petits peintres se rabattent sur Montparnasse et c'est là qu'on va voir émerger le gay Montparnasse. Alors du coup, ben, il est dit un inconditionnel par son talent, ses ivresses, ses crises de violence ou de poésie parfois quand il est sous. Et on sait que ses amis l'adorent parce que même sous, enfin voilà, s'il tombait dans la poubelle, les amis étaient capables de le ramener dans leur lit ou chez Rosalie, où on le couchait sur une paillasse et on attendait qu'il
dégrise. Qui décuve.
Voilà. Alors, son père et sa mère, enfin sa mère et sa sœur, pardon, viennent le visiter à la ruche. Parce que ce qui est génial aussi avec Amadeo, c'est que pendant son petit parcours artistique, comme il a pas un rond, il va être hébergé dans tous les ateliers collectifs. Donc la ruche, mais il y a aussi le bateau Lavoir, qui va être bientôt sous la direction de Picasso, qui va se le choper. La cité Falguer, qui existe toujours, où travaillent les petits peintres. Le boulevard Raspail, la rue Saint-Gaudard, la rue Saint-Georges. Donc, il va tous les faire. Et du coup, ça va lui donner quand même une connaissance carrément globale de tous les bons de ce temps. Donc, il est copain avec Lautrec, il est copain avec Cézanne, Gauguin, Brancusi le peintre, Picasso, bien sûr, Utrillo et son super ami de peinture et de soulerie. Et bon, du coup, il est génial. Enfin, je comprends que les gens du cinéma aient envie de faire un petit délire fébrile sur Amadeo, parce que vraiment, ça doit être trépidant.
Et ça ne m'étonne pas que ce soit Johnny Depp, un personnage comme lui, qui ait envie d'incarner ce genre de personnage. Quoi.
Ouais, je ne sais pas s'il n'est pas un peu vieux quand même et marqué Johnny Depp.
Ouais, mais...
Mais bon.
Ouais, parce que du coup, si c'est entre... Tu as dit, c'est le film, ce serait de 1916 à 1919. 1919. Du coup, ça lui faisait quel âge à cette époque-là?
Il est né en 84. Donc,
une petite trentaine, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il est jeune et Johnny est quand même déjà un peu tapé. Alors, la légende voudrait que la vocation d'Amadeo lui soit venue en rêve en août 1898, lors d'une affreuse crise de fièvre typhoïde, où il aurait vu des chefs-d'œuvre inconnus. Et donc, ça aurait libéré ses aspirations inconscientes. Et ça fait penser justement à ce qu'il avait dit à Jeanne, « Quand je connaîtrai ton âme, je peindrai tes yeux. » Donc, bref, là, donc, il fait tout le guet-apens. Comme il est séducteur, bon, bah, évidemment, il se tape la moitié de ses jolies petites modèles. Alors, à ce propos, j'ai d'ailleurs aussi appris qu'il y avait un marché aux modèles à la place de Clichy qui avait lieu, genre, les samedis matins, où tu pouvais aller acheter ton petit modèle pour la semaine qui était en promotion.
Ou en tout cas, on parle de femmes, là.
Ouais, on parle de femmes. Bah, comme on parlait d'art nègre, hein, il faut parler des vraies choses de la vie française. Hein, c'est de ça dont on est bien avec notre temps. Et voilà. Donc après, tu seras peintre, mon fils. Donc 1906, donc Paris. Et Paris, donc là, il les a toutes à ses pieds. Donc ça, on peut le voir à travers sa peinture. Parce qu'il faut voir, dès qu'il fait un portrait d'une femme deux, trois fois, c'est bon, c'est qu'il l'a mise dans son lit. Alors on verra la belle Elvira, qui, c'est elle qui pose pour les nus. Donc c'est une prostituée modèle de la butte, mais qui a eu un caractère sexuel fervent et donc qui est un peu une tigresse. Et donc il va avoir une relation très dense et passionnelle avec ce modèle. Il va tomber dans les bras d'une romancière artiste aussi qui s'appelle Béatrice Hastings, qui va être sur plusieurs portraits. Et puis, ce que je vous raconterai là à propos des sciences et technologies pour la découverte des mystères de la peinture, il en était sûrement très amoureux parce qu'en fait, on a retrouvé des portraits d'elle sous des tableaux d'autres portraits de Modigliani. Et puis, enfin, il va découvrir Jeanne, qui est belle comme une vierge italienne pure à l'enfant avec ses grands yeux, qui est une enfant, qui va tout de suite lui faire une petite fille, Jeanne. Ils vont tomber très rapidement.
Ils ont appelé leur fille Jeanne.
Oui, ils ont appelé leur fille Jeanne.
Ils n'étaient pas inspirés à l'époque, hein, putain.
Oui, ils aimaient vraiment joliment ce prénom. Donc elle, la belle Jeanne, elle échappe à son carcan bourgeois des beaux quartiers pour grimper justement d'abord à la butte et puis ensuite à Montmartre pour traîner avec les artistes et là où il se passe des trucs. Elle est elle-même illustratrice et très bonne dessinatrice. Elle fait des dessins qui traite vraiment de l'isolement et des vues de petite fille, comme une vue subjective d'une petite fille abandonnée. C'est très pur et c'est très triste. Donc ça lui correspond très bien. Et elle pose déjà, comme elle est belle, belle, belle comme le jour, elle pose déjà pour de nombreux copains. Donc du coup, ils vont être présentés. Et là, ils vont avoir un coup de foudre énorme, malgré leur différence d'âge. Et ils vont vivre une aventure de quelques années, 3 ans, dense, comme il l'avait dit, et brève. Très dense et très brève.
Et ce sera sa dernière histoire, du coup,
ce sera sa dernière histoire. Ce sera sa dernière histoire. Alors, la dernière histoire.
On met une petite musique romantique d'amour pour conclure sur cette belle et brève histoire.
Au-delà des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité où séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. Et deux amours. Mon pays est Paris, toujours mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier ce qui mon sol seul sait, Paris, Paris. Tout entier, le voir un jour, c'est mon.
À l'écoute de RDOA dans l'émission Artichaut.
L'Artichaut avec Carotte et Amadeo Modigliani. Donc, on en
Amadeo.
Était... Là, je parle vite parce que c'est vrai que c'est... on est sur des formats plus courts.
Mais c'est pas très grave.
Donc, c'est la guerre de 1914. Paris se vide. Ceux qui sont en bonne santé sont tous au front et vont sûrement ne pas rentrer. Et Amadeo, qui a donc une santé fragile, est réformé. Du coup, ça va accentuer son mal-être à cause de cet isolement et le fait de ne pas participer à un élan, même s'il est horrible, collectif. Et c'est dans ce Paris vide, désargenté, désabusé de la guerre, qu'il va faire la connaissance de Paul Guillaume, qui est donc un riche bourgeois de santé fragile, lui aussi, puisqu'il est réformé aussi, de 23 ans. Il va y avoir une très grande amitié entre eux, parce qu'ils aiment les mêmes choses, ils ont justement la même fascination pour ces masques africains et ces effets totémiques et ces costumes qui arrivent du monde entier et qui sont splendides de travail, de finesse, de joie, de couleur. Et Paul va tellement aimer le travail de Amadeo qu'il va vouloir bien sûr le vendre, le mettre en galerie et aussi se faire sa petite collection des œuvres qu'il adore. Donc il va régulièrement lui en acheter et on va en retrouver plusieurs, donc quatre sur dans sa collection à lui et des portraits de lui peints par Modigliani. Donc voilà, ensuite bon, on sort de la guerre, tout va mieux. Le 1917, le 3 décembre, il y a une expo pour lui, qui va durer seulement 3 heures. Donc les copains l'ont invité à participer, tu sais, aux expos des indépendants, les expos qui arrivent régulièrement. Et il y acquiert notoriété et un certain succès. Sauf que là, en 17, il expose un nu dont on voit les poils pubiens. Et on est quand même bien après Courbet, l'origine du monde. Et en fait, ça fait tollé. Et en 3 heures, les gendarmes arrivent, le tableau est décroché du mur. Et hop, salut, on l'enlève. C'est dire que, tu vois, en quasi... Enfin voilà, la société n'évolue pas au même rythme que la peinture. Donc Jeanne, qui va bientôt tomber une deuxième fois enceinte, part avec lui sur la Côte d'Azur parce que il faut qu'il se guérisse. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est adonné aussi à la sculpture et que bien évidemment, malgré le petit voyage en Italie à Carrare pour, avec Brancusi, faire des figures totémiques, en fait, ben, la poussière, t'imagines bien, lui correspond pas, lui va pas du tout. Donc, il fait des crises de toux sur crises de toux jusqu'à en crever presque. Et du coup, il se décide de se rapatrier vers Montparnasse et de se remettre à la peinture. Mais il le fait, un peu contraint. Et là, il commence à voir que sa maladie prend le dessus. Ouais, prend déjà le dessus sur son envie de création et va bientôt prendre le dessus sur un peu tout. Donc, en 1919, c'est la naissance de la petite Jeanne sous le soleil, là où ils ont décidé de se remettre
nous
en bonne santé.
Nous avons un invité sur Artichaut. Et on rentre pas dans l'émission sans dire un mot comme ça, toi. Hein, tu t'invites pas dans notre émission.
Bonjour à vous, Artichoise et Artichaut.
Bonjour à toi, Grand Bat. Donc, nous laissons Jeanne, enceinte de Jeanne, qui met au monde une Jeanne sous le soleil du midi de l'Italie, et la retour à Paris pour partager, soi-disant, le succès d'une expo en Angleterre où des tableaux sont partis des artistes français et qui revient auréolé de gloire et de succès. Sauf que là, le pauvre Amadeo fait une méningite tuberculeuse genre un truc, tu vois, crac, boum, hu, en deux minutes, t'es mort. Et voilà, et le 24 janvier 1900, il décède à l'hôpital de la Charité à Paris et il est enterré par une poignée de potes au Père Lachaise. Dévastée, Jeanne, qui est enceinte de 8 mois de leur deuxième enfant, retourne s'abriter chez ses parents, se refaire une petite santé, on croit, et mettre au monde ça à son deuxième enfant. Et en fait, non, le soir même, elle se jette par la fenêtre du cinquième étage et s'écrase. Et bizarrement, là où c'est encore plus triste, c'est que dès le lendemain de cette nouvelle, tout l'intérêt pour la culture et les bourgeois et tout ça se porte sur l'art de Amadeo Modigliani et Gianni Buterne et de cette triste, triste histoire de Roméo et Juliette au pays
de la peinture.
De la peinture.
Ouais, ça fait très Roméo et Juliette, en effet.
C'est très triste. Alors, ouais. Au-delà de ça... Depuis lors, la Tate Gallery a décidé de... Parce qu'ils ont pas mal de toiles, donc nous on en a peu, mais il y en a un peu partout, il y en a pas mal là-bas. Et ils ont décidé de faire des coupes stratigraphiques et de passer les toiles au rayon X pour voir si par hasard, il n'y aurait pas des trucs dessous. Et la Tipac, qu'est-ce qu'ils ont découvert ?
Il y a des trucs dessous.
Il y a des trucs dessous.
Et pas des moindres.
Et pas des moindres. En l'occurrence, par exemple, il y a un arbre. Or, il s'avère que des paysages, il en a fait très peu. On lui en connaît seulement 4, je crois. Et du coup, là, on a vu que non seulement il s'était adonné au paysage, qu'il n'arrêtait pas de repeindre sur des toiles qu'il avait déjà peintes. C'est là qu'on s'est aperçu aussi qu'il avait fait plusieurs portraits de Béatrice Hastings et que donc leur relation charnelle et amoureuse avait duré sûrement un petit peu plus longtemps que ce qu'on croyait. Et que tout ça, bah, ma pauvre Malo, tu sais à quoi c'est dû, évidemment, de repeindre sur 3/4 de ses tableaux.
La pauvreté.
Et évidemment, la précarité. On le prenait pour un peintre instinctif, vif, dans l'instant. Et qu'en fait, non, derrière, il y avait un travail ultra chiadé de tout, qu'il prenait un temps fou. Bon, on le connaît comme très bon dessinateur, mais qu'il prenait un temps fou à préparer ses tableaux, qu'il utilisait l'autre côté du pinceau pour faire les poils, les cheveux, les contours de ses personnages. Et voilà, on a vu aussi son travail qui évoluait pour se simplifier, se sublimer, aller à l'essentiel. On n'a pas assez parlé de ses yeux. Je te peindrai quand je connaîtrai ton âme. Je ferai tes yeux quand je connaîtrai ton âme. Qui est donc l'adage de Cicéron relatif au lien très fort qu'il y a entre l'âme et les yeux et à la difficulté de peindre les yeux. Tu te doutes, Malou, comme les mains, comme le nez. Bon, voilà, c'est dur. Et lui, en simplifiant, et ça, merci les masques africains et tout, en faisant ces deux pupilles mystérieuses en amande comme celle d'un chat bleu, bleu un peu pour tous. Ça nous projette en fait dans une immensité dans laquelle nous-mêmes on remplit les vides et c'est comme une conversation silencieuse avec une figure totémique qui arrive du fond des âges, qui oui est d'un classique avec ce long cou et qui fait penser aux cariatides et qui à côté de ça est là assise à côté de toi et dont la posture, la tête penchée, des choses très fines dans l'allure générale te donnent les principales caractéristiques de la pensée et de la personnalité. Donc c'est très très fort parce que c'est pointu, ciselé et c'est d'une grande grande finesse. Il n'a pas besoin de beaucoup de blabla. Bravo Amadeo et merci pour cette triste et belle, très belle histoire d'amour. Et un peu merde quand même au marché des arts et de la peinture qui encore une fois attend des vies tragiques pour s'intéresser à des personnages qui mériteraient vraiment, qui sont la lumière et qui mériteraient vraiment tout intérêt. Donc toujours une longueur de retard, c'est un petit peu triste.
C'est un peu ce qu'on constate à chaque fois, ouais, malheureusement.
Et bravo pour l'inspecteur de police des commissariats de Montparnasse et de Montmartre qui échangeait des cellules de dégrisement contre des œuvres d'art et qui peut-être ont fait changer des tableaux de main et chez lesquels peut-être un jour on récupérera d'autres œuvres, d'autres portraits. Donc beaucoup de portraits perdus. 11 portraits de Béatrice Hastings perdus, des dessins beaucoup perdus. Donc derrière toute cette vie et cette densité, à cause de cette pauvreté, ben finalement, peu d'œuvres. Voilà, sauf par couche. C'est un auteur à regarder, tu sais, en couche stratigraphique de manière verticale, quoi, et pas horizontale.
Dans le détail.
Ben, je vous embrasse, merci à tous.
Toi,
merci
Carotte.
À toi, Malo, merci à Amadeo Modigliani et merci à vous, les auditeurs. Je vous aime. À tout vite.
Oui, très bonne soirée à vous, auditeurs, à l'écoute de RDY.